Chapitre 28. Le destin des orphelins. Alors c'est ici que Pierre Sol vivait? Zizo s'avança de quelques pas dans la chambre. Agnel et Akane le suivaient. Sabine, étonnamment muette, était restée en retrait. Zizo observa la pièce. C'était une salle de musée ordinaire, mur blanc, parquet de chêne, mais un matelas avait été posé au milieu. Il détailla la caisse de bois servant de table de chevet, la lampe, le porte-manteau sur lequel reposait un épais manteau poussiéreux. Un peu plus loin, il repéra une paire de bottes, deux valises de vêtements, une petite pile de livres. Par la fenêtre principale, on distinguait entièrement la tour Eiffel, de la flèche à ses quatre pieds.
Pierre Sol s'était installé ici, avec vue sur le tipi, poursuivit Agnel, exactement comme Silver Forestier l'a écrit.
C'est là qu'il conservait la mémoire de tous les enfants dont il s'était occupé, récita Zizo. Pierre Sol aurait gardé des informations ici, près de lui, des informations sur notre passé. Ils cherchèrent dans la chambre sans rien découvrir d'autre que des objets abandonnés depuis 14 ans. Zizo ne renonça pas, insista, fouilla, et finit par remarquer une feuille de papier glissée entre les pages d'un petit livre. Utopie. Il parcourut les quelques lignes manuscrites et reconnut immédiatement l'écriture. Elle était identique à celle du cahier qu'il avait lu si souvent avec Chrysante, en arpentant tous les cimetières de Paris. « Mes enfants, vous qui entrez ici, ayez une pensée pour moi. Vous ne vous en souvenez pas, mais vous avez survécu grâce à moi. Les animaux se cachent pour mourir, il faut croire que nous ne sommes plus tout à fait humains. Je ne veux pas que vous trouviez ici mon cadavre décomposé. Je veux que vous trouviez votre passé. Pierre Sol Zarkis. »
« Y trouver notre passé ?» grogna Akane. Il ne pouvait pas être plus clair.
D'un geste énervé, il souleva le matelas et avec lui un nuage de poussière et de moutons.
« Il l'a été, » fit doucement Zizo. Lentement, il se mit à réciter quelques mots que, depuis 4 ans, il n'avait jamais oubliés. « La violence, ils l'apprendront. Elle sera leur compagne quotidienne s'ils veulent survivre. Alors, dans les derniers mois qu'il me reste à vivre, je vais essayer de leur apprendre l'unique chose qui leur sera réellement utile dans le monde qu'ils auront à rebâtir. Je vais essayer de leur apprendre à aimer. »
Sans lui, termina Zizo, nous ne serions que des animaux sauvages. Akane reposa le matelas. Sabine s'était approchée de lui.
Bien joué, Pierrot, fit-elle. Joli moral et joli projet. Avec Mama Luna et Silver l'homme des bois, tu as exterminé la quasi-totalité de l'humanité, nos parents, nos frères et nos sœurs. Mais faut croire que tu as réussi à apprendre à aimer. Tes petits protégés semblent même disposés à te pardonner.
Zizo avait rejoint une nouvelle porte dans le mur opposé.
On ne pardonne rien, Sabine. Mais sans lui, on ne serait pas là. Et contrairement à vous, nos parents, nos frères et nos sœurs, on ne les connaît pas.
Sans attendre la réponse de la Lolly Girl, Zizo ouvrit la porte. Il resta muet devant la beauté et l'étrangeté de ce qu'il découvrait. Dans le courant d'air, une multitude de bougies, comme allumées depuis l'éternité, vacillait. Zizo, Agnel, Akane et Sabine se tenaient debout dans la nouvelle salle du Musée de l'Homme, plus étroite mais beaucoup plus longue que la précédente. Des centaines de boîtes, de la taille de cartons à chaussures, étaient posées sur d'interminables étagères. Une petite lame de cristal, colorée d'un éclat de peinture rouge, brillait devant chaque carton, offrant l'illusion d'immenses rangées de bougies qui ne s'éteindraient jamais. Le plus éternel des mausolées. Akane, Agnel et Zizo tremblaient, incapables d'avancer.
« Il y en a combien ?» demanda Akane.
« Au moins 1000 !» affirma Agnel.
Les flammes de verre paraissaient s'étendre à l'infini. Seule Sabi osa s'approcher de la première boîte.
« Xena »,
lut-elle sur l'étiquette.
Mauvaise nouvelle, elles ne sont pas rangées par ordre alphabétique. Pas de bol, les garçons. Votre papa à tous était un bordélique. »
La lolligirl leur arracha à peine un sourire.
« Xena, ça vous dit quelque chose ?»
Les trois hochèrent négativement la tête.
Sabi comprit qu'il s'agissait d'un enfant qui n'avait pas survécu. Un des 518 petits anges enterrés au cimetière de Picpus. Et évita de se lancer dans une nouvelle plaisanterie. Elle se contenta d'inventorier le contenu du premier carton. Une tétine mâchée, deux petits chaussons roses, une gourmette au même prénom, Xena, une carte postale d'une ville qu'elle ne connaissait pas et quelques mots tracés à la hâte. « Belle et longue vie dans le nouveau monde, mon poussin. Ton papa, ta maman et tes deux grandes sœurs. » En fouillant encore, Sabi découvrit un extrait de naissance qui précisait l'adresse de Xena, mais aussi le prénom, le nom et la profession de ses parents, des métiers dont elle ignorait tout, lui, agent de propreté urbaine, et elle, technicienne de surface. Sabi rangea toutes les reliques avec minutie dans le carton, puis le replaça sur l'étagère, devant sa flamme de cristal. Elle offrit aux trois garçons son plus beau sourire.
« Eh bien voilà, vous aussi vous allez savoir. Il n'y a plus qu'à chercher. »
Il leur fallut près de 10 minutes avant de reconnaître des prénoms sur les étiquettes. Le carton de Wayne contenait un bonnet de bébé, une longue tresse rousse que sa maman avait coupée quand il était né, et une petite étoile de shérif dorée offerte par son grand frère. Un peu plus loin, Angel dénicha le carton de Constel. La boîte débordait de peluches aux poils fanés et de bijoux de pacotille. Sur une photo représentant une ancienne reine était griffonné « Pour toi, ma petite étoile, tu seras la plus jolie de tout le nouveau monde. Ta maman qui t'aime. » Celle de Vanille, à l'inverse, était presque vide. Ses deux parents tenaient une petite épicerie et avaient simplement glissé à l'intérieur une ancienne pièce de 1 franc et un trèfle à 4 feuilles. Ils découvrirent plus rapidement les cartons de Gulo-Gulo, de Cheyenne, de Suzette, de Pépin, de Noam, sans s'y attarder, pressés de trouver les leurs. Agnel fut le premier à reconnaître sa flamme sur l'une des plus hautes étagères. Il déballa le contenu assis par terre, la boîte coincée entre ses genoux. Son père était maçon. Il était mort avant qu'il naisse, quelques mois avant le passage du nuage, en tombant d'un échafaudage. Sa mère ne travaillait pas. Elle avait laissé dans le carton tout ce que son père possédait dans ses poches le jour de sa mort. Un fil à plomb, un crayon à bois, un mètre pliant et un appôt à oiseaux. Curieusement, les trois boîtes de Mordelia, Bill et Akane se trouvaient côte à côte. Un hasard parmi les centaines de cartons alignés? À moins que Mordelia, la seule à connaître l'emplacement de ce mausolée, ne soit déjà venue et n'ait déplacé ses cartons. Encore un de ses secrets. Elle connaissait donc le passé de chaque enfant du tipi, sans jamais en avoir parlé à personne. Sabi embrassa longuement son géant, avant qu'il s'éloigne en portant sa boîte. Tiraillée par la curiosité, elle ne put s'empêcher de se pencher sur celle de Bill et de Mordelia. Akane marchait, sans s'arrêter, sans regarder ni ses pieds ni où il allait, les yeux uniquement fixés sur la feuille qu'il venait de sortir de la boîte. Une lettre dactylographiée, à l'en-tête d'un centre d'hébergement, la Caravane, signée d'un certain Lenoble, le directeur de l'établissement. Il expliquait que sa maman était arrivée dans le foyer quelques jours avant sa naissance. Elle avait traversé le désert, la mer et les montagnes, et était entrée en France clandestinement pour que l'enfant qu'elle portait puisse grandir à Paris. Elle ne parlait pas un mot de français et était décédée quelques jours après l'accouchement. Sabi commença distraitement par ouvrir la boîte de Bill. « Aucun intérêt, » conclut-elle rapidement. Ses parents étaient boulangers. Bill était fils unique. La boîte contenait une demi-douzaine de reliques classiques, doudous puants en forme de dragon, biberon tété goulûment, body bleu marine et chaussons assortis. Elle ne repéra qu'une originalité. Les parents de Bill avaient glissé une bourse contenant des dizaines de fèves. Pauvre King Bill. Le nuage était passé entre le 21 et le 25 décembre. Aucune famille survivante, 2 semaines plus tard, n'avait dû avoir le courage de partager une galette, et encore moins de tirer les rois. À Cannes, sans cesser de marcher, après avoir lu et relu la lettre, fouilla en aveugle son carton, il le crut d'abord vide, avant de sentir un lacet de cuir entre ses doigts. Il tira et sa large paume se referma sur un collier tout simple, dans lequel 2 pendentifs avaient été enfilés, un coquillage blanc, nacré, comme à Cannes n'en avait jamais vu, et une petite tour Eiffel, modèle porte-clés en plastique de mauvaise qualité. À Cannes comprenait. Sa maman ne lui avait laissé aucun mot, mais le message était clair. Celui d'une trajectoire. La sienne. Il venait d'un autre continent, au-delà de la mer, né d'un père qui devait physiquement lui ressembler et d'une mère qu'il avait sauvée en s'épuisant à traverser la moitié de la terre. Avait-il décidé de se réfugier dans le tipi à cause de ce collier, entraînant tous les autres enfants des rues avec lui? Sabi rangea vite la boîte de Bill pour se saisir de celle de Mordelia. Ses mains se refermèrent sur un petit album photo, unique objet conservé dans la boîte, à moins que Mordelia n'ait emporté le reste. La Lolly Girl retint un cri en feuilletant l'album. 4 femmes, ressemblant de façon troublante à Mordelia, étaient photographiées en tenue de mariée. La plus jeune avait 20 ans et la plus âgée, 30. Quelques photos plus tard, Sabi avait compris. La mère et les tantes de Mordelia avaient décidé de se marier et d'avoir 4 enfants en même temps pour que les cousins grandissent ensemble et forment la famille la plus unie. Mordelia était issue d'une famille catholique, très pratiquante. Elle était photographiée bébé, en tenue de baptême, près des fonts baptismaux, en compagnie de 3 autres nourrissons. Quelques autres clichés représentaient 3 filles et un garçon barbotant les fesses à l'air dans un bain, aligné sur un canapé pour téter un biberon, endormi dans le même lit. Puis plus rien. Sabi devinait la suite. Seule Mordelia avait survécu. Ses cousines et son cousin étaient-ils enterrés au cimetière de Picpus? Avaient-ils participé à la nuit de la pyramide? Sa haine pour ceux du château s'était-elle décuplée après la découverte de son passé? Autant de questions auxquelles Mordelia ne répondrait jamais. Akan avait atteint le bout de la pièce. Il fit demi-tour, tout en continuant de chercher un autre souvenir dans le carton. Il n'y en avait pas. Elle était vide cette fois. Ou, instinctivement, il renversa la boîte au-dessus de sa main. Une petite poignée de sable glissa dans sa paume. Le sable collé aux pieds nus de sa mère. Le sable épousté aux épaules de son père. Quelques grammes de poudre magique emportés de son lointain désert. Akan serra son poing à en broyer les grains. Il savait désormais d'où il venait. Il enfila à son cou le collier, priant pour qu'il lui donne la force de savoir où aller. Seul, Zizo errait. Il venait de parcourir la pièce pour la 12e fois consécutive, sans trouver son nom. Sabi, Agnel, puis Akan étaient venus l'aider à chercher. Ils restèrent encore plusieurs heures à éplucher chaque étiquette. Calculèrent qu'ils avaient découvert toutes celles des autres enfants du tipi, Noam, Nadir, Mouk, Camélian, Pépin, mais aucune au nom de Zizomis. « On va trouver !» l'encourageait Sabi. « On va ouvrir toutes les boîtes s'il le faut, mais on va trouver !» Le soleil commençait à se coucher. Par la fenêtre, le tipi disparaissait, avalé par la nuit. Les étoiles, les unes après les autres, aussi nombreuses que les bougies du musée, s'allumaient. Zizo resta un long moment à les compter. « Ah, laissez tomber !» finit-il par lâcher. « On perd du temps précieux. » Il se tenait droit, le visage fermé, tous ses muscles tendus pour ne pas laisser ses larmes couler. « Elle est forcément là ? » argumenta encore Agnel.
Il n'y a aucune raison pour que...
Je vous dis de laisser tomber !
Cria plus fort Zizou.
Vous comprenez ? J'ai vécu 18 ans sans savoir qui étaient mes parents, alors qu'est-ce que ça change ?
Agnel s'approcha et le serra dans ses bras. Balbutia Zizou.
Je suis heureux pour vous tous. Peut-être que Mordelia ou Pearsol a caché mon passé parce qu'il valait mieux que je ne le découvre pas. Allez, c'est le futur qui est important. Et le présent.
Il essuya une poussière mouillée au coin de ses yeux.
Alix est enfermée dans le palais impérial. Presque tous nos autres amis aussi. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons les délivrer.